Nous savons cela de Jésus. Seul celui qui n'a aucune part dans l'au-delà porte cet habit. Puis on apporte au prophète d'autres coches et il a fait parvenir à une autre, à Omar. Ce dernier lui dit alors, comment pourrais-je la porter après ce que tu m'as dit? Il sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne te l'ai pas donné pour que tu la portes, mais afin que tu la vendes ou que tu l'étoffes à quelqu'un. Cependant, Omar l'envoya à l'un de ses frères habitant à la Mecque avant que celui-ci n'embrasse l'islam.
Comment ils ont traduit la ville en question?
Toge.
Ah, Toge.
T-O-G-E.
Toge. C'est un Toge.
Ils ont paru, c'est vrai.
Non.
Ils
ont un Toge. Ils ont
un Toge. Taille.
Hein? Pièce de laine.
De laine.
Ça va, ouais, ça. C'est le groupe du magistrat et tout ça.
أنا طيب الحديث درجته صحيح الحديث صحيح الحديث في الصحيحين وقوله قبل أن يسلم هذا هو موطن الشاهد وكله شاهد هذا موطن الشاهد وكله شاهد Le hadith, les frères, il est authentique, alhamdoulilah. Et il se trouve dans les deux sahih, qui sont sahih muslim et sahih bukhari. D'accord ? Donc il a atteint le degré le plus fort d'authenticité. Wallillahi alhamd. Est-ce que vous avez bien entendu la traduction ? Vous avez bien entendu la traduction ? Donc lorsqu'à la fin, il dit Ibn Omar, comme quoi, donc Omar, son père, radiallahu anhu, a envoyé cet habit à un de ses frères qui habitait à Mecca à l'époque, avant qu'il n'embrasse l'islam. Il dit ici le shaykh, hafidhahullah ta'ala, avant qu'il n'embrasse l'islam, c'est la chose qui ici est liée au chapitre qu'on est en train d'étudier, qui est la bienfaisance envers les parents, même qui sont polythéistes. D'accord ? La bienfaisance envers les parents, même s'ils sont mushrikis, des polythéistes ou des associateurs et des non-musulmans. D'accord ? Donc là, on comprend que Omar a offert un cadeau à un de ses frères à Mecca alors qu'il n'était pas encore musulman. Donc il a été bienfaisant envers lui. Alhamdulillah. Tayyib. Rijal al-Isnad Moussa. Ismuhu Moussa. Wa huwa Ibn Ismail. Ibn Ismail al-Tabuzaki. Thiqatun Hafiz. Donc l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous dit, ou plutôt nous rapporte ce hadith-là, d'un certain Moussa. Donc on comprend par là que Al-Bukhari a entendu ce hadith de ses propres oreilles, de la bouche d'un certain Moussa. D'accord ? Donc il faisait partie des muhadithis, des savants du hadith, des rapporteurs de hadith de son époque. Et c'est Moussa ibn Ismail, le fils d'Ismail, Al-Tabuzaki, qui fait partie donc des rapporteurs fiables de hadith. Puis on a Abdul Aziz ibn Muslim, Thiqatun Saleh. Et donc ce Moussa ibn Ibrahim, ibn Ismail, l'a entendu ce hadith de qui? D'un certain Abdul Aziz ibn Muslim, qui fait partie également des rapporteurs fiables de hadith. Et lui l'a entendu de qui? De Abdullah ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, qui était donc le serviteur de Ibn Omar. Donc, on comprend par là que Abdullah ibn Dinar faisait partie des tabi'in. Parce qu'il était, donc, il a rencontré Ibn Omar. Radiallahu anhuma. Voyez. Est-ce que c'est bon, les frères? C'est bon, mon frère? N'hésite pas, Inch'Allah. Que les frères qui sont ici, ils étaient présents depuis le début, mashallah. Donc il y a des notions que je réexplique pas, notamment concernant tout ce qui est lié à la science du hadith, la chaîne de transmission, les rapporteurs et tout. Donc n'hésite pas. معنى الكلمات الحلة الحلة ما هي الحلة الحلة ثوبان ثوبان اثنان إزار ورداء لا تكون حلة إلا إذا كانت جديدة تحل من طيها وتلبس سيارة نوع من البرود التي يخالطها حرير وسيارة مأخوذة من السيور جمع سير فيها سيور من حرير. Donc on va expliquer certaines notions et certains termes du hadith. Parmi eux, donc il dit, je vais essayer de traduire une seconde fois le hadith. Il dit donc Ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit j'ai vu, ou plutôt il dit Umar, donc il parle de son propre père. Il dit Umar a vu une hulla. Donc c'est quoi une hulla? Une hulla, ce mot il indique déjà un habit composé de deux pièces, un bas et un haut. Un bas et un haut, d'accord? Et un rida, donc le rida c'est ce qui se met en haut, et le izar c'est ce qui se met en bas. Ceux qui ont fait l'umra ou le hajj, yani, ils savent à peu près à quoi correspondent ces mots-là. Il dit le cheikh, al-hulla, c'est quelque chose qui doit être neuf également, pas usé. C'est quelque chose de neuf, c'est un habit qui est neuf. Il n'est pas usé, na'am. Et donc il se porte en bas et en haut. Siyara, il dit c'est nawilna al-burud. Al-burud, Allahu alam, c'est une matière épaisse. C'est une matière d'habit qui est un habit qui est épais et qui n'est pas lisse. C'est épais, c'est pas lisse non plus. Taïeb. Donc ça pourrait s'apparenter peut-être à de la laine. Allahu ta'ala a'lam. Mais par rapport à ce que j'ai vu, j'ai pas vu. Tu as vu la laine toi? Non. Fin.
Ah?
Où tu l'as vu? Ouais.
Non, tu l'as pensé.
Ah, la torche, par rapport à la torche. Ah, il s'appelle que la torche soit une traduction.
Vous voulez dire les mandats
hein?
Jules
César. Non, c'est vrai, on m'a fait penser. Et certains ont fait la comparaison avec les habits que portaient les empereurs perses. Hein? Donc après, qu'est-ce qu'ils portaient exactement? El Mouhim, on doit se dire que. Voilà. Ah, c'est ça la torche, là. On doit se dire que c'est un habit que les gens haut placés avaient l'habitude de porter. C'est pas n'importe qui portait ce genre de vêtements, d'accord? Les haut placés, ceux qui vraiment ils étaient fortunés, hein, portaient ce genre d'habit-là. C'est pas n'importe qui, pas les pauvres, d'accord? Et donc ce linge-là, cet habit-là, il était mélangé à de la soie. Il y avait des étoffes ou des morceaux de tissu qui étaient donc de soie. D'accord? Le harir. Comme vous savez, la soie, c'est interdit pour les hommes. D'accord? C'est interdit pour les hommes. Donc, à défaut d'avoir une traduction précise, voilà. Sachez que c'est un habit de pièces composées de certaines étoffes de soie et que seuls les gens notables et bien placé et porté. D'accord? Toj. Qala ibta hadi. Donc il. Non. Qala ibta. Et qala Omar, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, عندما ra'a hadi l'hulla, qala lahu ibta. Ay, ishtariha. Ya Rasulullah, ishtari hadi l'hulla. Voyez. Donc Omar il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a vu cet habit là qui était en vente, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, achète-la achète cet habit-là. Falbasha yawm al-jumu'a. Et ainsi tu la mettras le jour de l'jumu'a. Wa idha ja'aka al-wufud. Et également lorsque al-wufud, c'est-à-dire les. On appelle ça. Hein?
L'événement.
Hein?
L'événement.
Non, non, al-wufud, c'est un groupe de gens qui viennent visiter le gouverneur. Hein, quand ils viennent pour visiter le gouverneur.
Comme
il y a un nom spécial. Le waft.
Délégation.
Délégation, voilà. Sense. Délégation. D'accord? Ainsi, tu pourras accueillir les différentes délégations qui viendront à toi, machallah. Vous savez que les rois, les présidents, lorsqu'ils accueillent ce genre de délégation, hein, ils s'apprêtent, ils mettent leurs plus beaux habits, machallah. Le waft, j'aime le waft. وهم القوم يجتمعون ويريدون البلاد. Donc il a dit ici al-wufud, c'est le pluriel de waft, al-waft. Donc c'est un groupe de gens donc qui se réunissent et qui se dirigent vers un pays en particulier pour visiter les dirigeants. Non. Les délégations. Qu'est-ce qu'il a répondu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, ne porte ce genre d'habit que ceux qui n'ont aucune part, c'est-à-dire dans l'au-delà. Que ceux qui n'ont aucune part, entre parenthèses, dans l'au-delà. D'accord ? Par rapport à la soie. يقول الخلاء هو النصيب. وكثير من الناس يظن أن الخلاء من الأخلاق. هذا خطأ. الخلاء ليس من الأخلاق. الأخلاق جمع خلق. أما الخلاء فمعناه النصيب أو الحظ. الحظ. والمعنى إنما يلبس هذه من لا نصيب له في الآخرة. طيب. نعم. ولمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. كما في سورة البقرة. Donc le sens de al-khalaq utilisé dans le mot utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire un nasib, c'est-à-dire une part, une portion. Le prophète lui fait comprendre que cet habit-là ne le porte que ceux qui n'auront aucune part dans l'au-delà. Vous voyez? Donc ça peut concerner soit les koufas, il n'y a pas de doute qu'ils n'auront aucune part dans l'au-delà, ou aussi également les croyants. Mais dans ce cas-là, eux, ils auront quand même une part. Si eux sont morts sur le tawhid, sur l'unicité, ils auront leur part. Fil jannah. Mais dans ce cas-là, ça sera donc une expression pour vraiment montrer que la chose elle est grave. Une bête tarlid, comme on dit, une bête tarlid, pour vraiment indiquer la gravité de la chose. Ça ne veut pas dire que le croyant, s'il porte de la soie, sera en enfer pour l'éternité. D'accord? À moins qu'il rend cela licite. S'il rend cela lucide, il aura discrédité la parole d'Allah tabarak wa ta'ala wa hada kufr. Non, on interdit tout pour les hommes, pas pour les femmes, pour les hommes. Apparent ou là inapparent. Ma yukhadhu min al-hadith. Ma yukhadhu min al-hadith. Awalan. استنادا إلى بعض روايات الشيخين أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد. رأى هذه الحلة عند باب المسجد. فيجوز البيع والشراء عند باب المسجد. هذا دليل على جواز البيع والتجارة عند باب المسجد. Donc ce que l'on tire du hadith, premièrement, lorsque on lit que, on apprend que Omar, radiallahu anhu, lorsqu'il a aperçu cet habit-là il était où cet habit? Il était devant la porte de la mosquée. Et il était en vente. D'accord? Donc cela nous montre qu'il est permis de faire du commerce, vendre, acheter, devant la porte de la mosquée. Dans la mosquée, c'est interdit. Là, il y a tout. Mais devant la porte de la mosquée, comme certains le font, ils se mettent devant là, et ils vendent de la marchandise.
Et pour les habits de la mosquée, ça veut dire les tabliers, les siwak, tout ça.
Pour tout, pour toute sila. C'est une sila. Tu viens, je te mets devant la mosquée. Tu vends ta sila. Tu vends des baskets, des claquettes. Hein? À condition que ce soit halal, bien sûr. Il faut avoir des choses haram. Quand c'est haram, c'est... même si c'est pas devant la mosquée, c'est interdit. C'est pas que devant la mosquée, c'est interdit. ثانيا تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء إباحة الحرير للنساء وإباحة إهدائه كذلك إباحة إهداء الحرير للغير وإباحة أخذ ثمنه لتبيعها أو تكسوها طيب deuxièmement l'interdiction donc du port de la soie pour les hommes en dehors des femmes. Les femmes, elles ont le droit de porter de la soie. D'ailleurs. Et également, on tire de ce hadith qu'il est permis d'en offrir. Qu'il est permis d'en offrir même à des hommes. Je parle dans l'intention qu'ils le mettent. Dans l'intention qu'ils l'offrent à leur femme. D'ailleurs. Non, mais c'est permis. Ou qu'ils en tirent profit, en le vendant, ou je sais pas, comme ils veulent. D'ailleurs. Comme il l'a fait là avec son frère qui était à Mecca. Donc son frère c'était énorme. Il a offert quand même. Ça ne veut pas dire que les kofars ont le droit d'emporter. Non. Ça ne veut pas dire ça. Parce qu'il se peut que la personne ait une mauvaise compréhension du hadith et comprenne que du coup, ben, vu qu'il a offert à son frère qui était mouchrik, donc le mouchrik lui il a le droit de porter de la soie. Vu que c'est un mouchrik, ce n'est pas un musulman. Ça ne veut pas dire ça. D'accord ? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut tout simplement dire que tu as le droit d'offrir de la soie à un homme, pas pour qu'il le porte, mais pour qu'il l'offre à sa femme, par exemple. D'accord ? Non.
Et là, c'était une question d'une tenue homme, d'après ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit tout à l'heure que.
C'est pas précisé. Honnêtement, je ne sais pas si c'est spécifique aux hommes. Pas mal.
Parce que du moment où tu as dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, genre, s'il pouvait le prendre, qu'il aurait pu le porter dans les événements, comme tu as dit tout à l'heure.
Non, mais comme on a dit, tu vois, si c'est une genre de toge, une toge c'est quoi? C'est, en fait, c'est un tissu large que tu mets autour de toi, comme ça. Mm. Et du coup, peut-être que même les femmes
peuvent le porter.
Okay. Ouais. Ou aussi, peut-être que tu peux le transformer et en faire un habit de femme, ça va aller. Vous voyez? Et également, il est permis donc d'en acheter, même si tu es un homme, d'en acheter pour le revendre et aller gagner de l'argent avec. Ou alors le offrir à ton épouse, encore une fois, ou les femmes de ta famille. Donc là, on parle de la soie. Hein. On parle de la soie. Thalithan, jawazu ihda thiyab al-harir ila al-rijal. لأنها لا تعين لبسها هذا الإهداء لا يتعين لبسها فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الحلة وفيها سيور الحرير لعمر كان رجلا لا ليلبسها وإنما ليبيعها أو يكسوها troisièmement la permission d'offrir un habit en soie aux hommes, même s'ils n'ont pas le droit de le porter. Tu as le droit de leur offrir la preuve. Le prophète, il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a refusé de l'acheter et que plus tard, on lui a donné justement des habits en soie, eh bien, il en a offert à Omar. Il a offert un de ces habits-là à Omar. Donc, il est permis d'en offrir à un homme. Pas pour qu'il le porte, mais pour qu'il en tire profit, soit en le vendant, soit en le donnant à une femme, encore une fois. Vous voyez ? C'est bon? رابعا يجوز إهداء المسلم إلى المشرك. يجوز إهداء أي هدية، هدية من المسلم للمشرك، ثوبا وغيره وغير الثوب. Quatrièmement, il est permis d'offrir un cadeau à un mushrik. D'accord? Il est permis que le muslim offre un présent, offre un cadeau à un non-musulman. Il n'y a aucun problème. Que ce soit un habit, la nourriture, de l'argent ou autre. Affiché. Au contraire, cela peut ouvrir le cœur de cette personne. خامسا استحباب لبس أنفس الثياب يوم الجمعة. استحباب لبس أنفس الثياب يوم الجمعة ويوم العيدين وعند لقاء الوفود ونحو ذلك. Cinquièmement, la recommandation du fait de porter les habits les plus précieux le jour de Jumu'ah. Pas forcément les plus neufs, mais les plus précieux, d'accord, les meilleurs habits, le jour de Al-Jumu'ah, et bien sûr également les deux jours de l'Eid, Eid Al-Fitr et Eid Al-Adha, et également lorsque la personne attend une délégation ou attend des invités de marque, comme on dit, etc. etc. سادسا جواز صلة الأقارب الكفار. نعم. والإحسان إليهم ولعله يفتح أبواب قلوبهم لكي يدخل الإسلام إلى سويداوات قلوبهم. Sixièmement, la permission de maintenir les liens de parenté même avec les kuffars. Il est permis de lier et de maintenir les liens avec eux, d'être bienfaisant envers eux, car cela peut ouvrir les portes de leur cœur. Cela peut toucher, yani, comme on dit, leur cœur en plein cœur. Leur cœur en plein cœur. La meilleure traduction que j'ai trouvée ici. Non. Donc voilà le hadith. Pour les frères qui n'ont pas bien entendu tout à l'heure. Donc après que le prophète il ait refusé d'acheter le hulla en soi, on lui a ramené ces vêtements-là. Il en a donné un à Omar. Et Omar au début il a dit, hein? Non, non, je vais essayer de. Des fois, avec les mots, avec leurs mots, c'est assez compliqué. Et Omar, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit: comment tu m'offres cet habit-là en soi, alors que la veille, tu as dit ce que tu as dit? C'est-à-dire que tu l'as refusé, tu as même dit que celui qui emporte, eh bien, il n'a aucune part dans l'au-delà. Et tu me l'offres à moi? Et allez, tu me dis mal, quoi. Il était choqué. Et là, il lui a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je ne te l'ai pas donné pour que tu le portes, mais pour que tu le vendes ou que tu le fasses porter à quelqu'un qui a le droit de le porter. Après, il a compris. Et qu'est-ce qu'il a fait, Omar, du coup? Il a pris, il a envoyé à un de ses frères qui était à Mecca, qui n'était pas encore musulman. Donc, c'est la fin du hadith, en fait, qui nous montre qu'il est permis d'être bienfaisant envers le mushrik, envers le kafir. Hein? Alhamdulillah. Et il faut savoir que la personne à qui il a offert n'était pas vraiment son frère de sang. C'était pas vraiment son frère de sang. Certains ont dit que c'était son frère de lait. D'autres ont dit que c'était son frère en islam. D'autres ont dit que c'était le frère de son frère. Le frère de son frère. D'accord? Mais au niveau du sang, il n'y avait aucun lien entre lui et cette personne-là. Allah. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أقرأ شنو فريد؟ عندك إنترنت لا؟ طيب. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني أخبرنا سفيان قال حدثني سعد ابن إبراهيم عن حميدي ابن عبد الرحمن عن عبد الله ابن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه فقالوا كيف يشتم قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه فيشتم فيسب أباه وأمه وهذا باب لا يسب والديه نعم أخي ليش
Le pain insulté, c'est 14. Ouais. Chapitre 14. Le pain insulté, c'est pas bon. D'après Abdullah ibn Amr, le prophète a dit, insulter ses parents fait partie des grands péchés. Les compagnons demandèrent, comment peux-tu les insulter ? Il répondit, un tel insulte les parents de quelqu'un et les autres lui répondent, non, un tel insulte les parents de quelqu'un et l'autre lui répond en insultant les siens.
نعم حسنا بارك الله فيك
إذن
انتقلنا إلى الباب الرابع عشر وهو باب لا يسب والديه باب لا يسب والديه درجة الحديث صحيح الحديث في صحيحين الحديث الأوثنتيك الحمد لله الأوثنتيك إلي قال مندان لدو صحيح البخاري ومسلم رجال الإسناد سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة كثير الحديث دونك يجي الإمام البخاري رحمه الله تعالى نوزا رابورتي محمد بن كثير دونك on a déjà vu qui était ce rapporteur dans les hadiths précédents qui a dit, il nous a apporté Soufiane. Ce qui est Soufiane ici, Al-Thawri. Donc sachez que l'imam al-Bukhari, lorsque il dit Soufiane, sans préciser lequel, il veut parler de Soufiane al-Thawri. C'est pour ça qu'il est important de connaître aussi les termes utilisés par chaque auteur. Il se peut que Soufiane, pour al-Bukhari, c'est Thawri, il se peut que pour un autre, c'est Ibn Uyayna. On peut diverger selon l'auteur. Al-Muhim ici, c'est Soufiane al-Thawri qui a dit Sa'd ibn Ibrahim, qui est Sa'd ibn Ibrahim ibn Abd al-Rahman ibn Awf, qui fait partie donc des rapporteurs fiables de hadith, de qui Soufiane a pris le hadith. Wa Humayn ibn Abd al-Rahman, huwa ibn Abd al-Rahman ibn Awf, thiqatun kathir al-hadith. Donc Sa'd ibn Ibrahim, il a pris de Humayn ibn Abd al-Rahman. Donc en fait, il a pris de son oncle. Il a pris de son oncle. Hein? Parce que Ibrahim ici, Sa'd ibn Ibrahim, c'était le fils de Abd al-Rahman. Et Humayn, c'était aussi le fils d'Abd al-Rahman. D'accord ? Donc Sa'd, c'était le neveu de Humayn. c'est moi le frère. Alhamdulillah. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min al-kaba'ir. Lafz al-sahih. إن من أكبر الكبائر اللفظ الصحيح هو إن من أكبر الكبائر أن يلعن الحديث أن يلعن والديه يلعن الرجل والديه نعم donc il dit ici le prophète صلى الله عليه وسلم dans cette version fait partie des grands péchés الكبائر Mais la version là, qui est authentique en vérité, c'est Min Akbar al-Kabair, fait partie des plus grands Kabair. Donc c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Fait partie des pires kaba'ir. C'est pas seulement fait partie des kaba'ir, mais fait partie des pires kaba'ir. D'accord ? Le fait que la personne, ici, yal'an, maudisse ses parents, ou insulte ses parents. Vous voyez ? Qui nous rappelle c'est quoi une kabira ? Mahia al-kabira. C'est quoi un péché majeur ? Bismillah.
C'est un péché qui est suivi d'une menace et d'un châtiment.
Qui est suivi d'une menace et d'un châtiment.
Un grand péché, en principe, on sait que c'est un grand péché parce que. Après cela, Allah il prévient par la menace, par le châtiment. Non.
Tous les péchés, yani, exposent au châtiment. Tous les péchés exposent au châtiment. C'est pas que les péchés majeurs. Et les péchés mineurs t'exposent au châtiment. Une menace, mais une menace qui est spécifique, qui est particulière. Que ce soit la malédiction, l'âne, que ce soit nar, l'enfer, que ce soit. Naam, le bara'a min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le désaveu du prophète, ou alors la colère d'Allah. Vous voyez ? Mais en vérité, tous les péchés exposent à la colère d'Allah. Mais quand il y a un texte clair, explicite, eh bien, ça te montre que ce péché-là est un kébir, est un péché majeur. Et s'il n'y a pas de texte, ça rien, c'est un péché mineur. D'accord ? Non. Et كل ذنب ختم به يعني بغضب او بلعن او بالنار. Non, c'est ça. Les trois choses, retiens les trois choses. S'il y a un texte explicite qui dit que ce péché-là entraîne la colère d'Allah, kébir, entraîne l'enfer, kébir, entraîne la malédiction, kébir. C'est ça.
Une peine légale.
Le wa'id aussi. Et pour faire simple, yani, faire simple, النار والغضب واللعن. معاني الكلمات قوله يشتم. ما معنى يشتم؟ يشتم من الفعل شتم من باب ضرب. ضرب يضرب. اضرب. أو اضرب عفوا. ضرب يضرب اضرب ضربا. وشتم كذلك. شتم يشتم اشتم. لا يشتم. يشتم غير صحيح. مع أنه منتشر. منتشر يشتم هذا منتشر. لكن قال شيخ الصحيح يشتم لا يشتم. قالوا كيف يشتم؟ كيف يشتم سبحان الله؟ دونك جو رابل الحديث يلدي عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit fait partie des pires kabahir le fait que l'homme insulte ses deux parents. Le fait que l'homme il insulte ses deux parents. Donc il dit, c'est le cheikh, on dit chatama yashtimu et pas chatama yashtumu. Yashtumu c'est pas bon. C'est yashtimu. La bonne conjugaison c'est avec al-kasr sous le terme yashtimu. C'est comme daraba. Daraba yadribu. D'accord ? Daraba ? Non. Non, là, il a cité un exemple au niveau de la morphologie. Ça se conjugue pareil, la conjugaison. Tu dis daraba, yadribu. Chatman, yashtimu. Chatman, le masdar, chatman, chatman. Comme tu dis al-darb, c'est pareil, al-darb. Taïeb ? Faqalu, kayfa yashtim ? Kayfa yashtim rajul walidayhi, subhanallah. هذا من المحال. الطبع السليم ينكر هذا. الطبيعة السليمة تنكر مثل هذا الفعل. أن يقع ذلك منه فاستبعد السائل ذلك لنقاء فطرته. واستبعد الأصحاب رضي الله عنهم أن يكون أحد يشتم أباه أو أمه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبب في الشتم كالتعاطي بنفسه إذا كان سببا لشتمهما فكأنه شتمهما.
Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est partie des pires kaba'ir que l'homme insulte ses deux parents. Sahaba, ils ont été choqués de par leur fitra, leur saine nature, qu'ils ne pouvaient pas concevoir ce genre de choses. Même Tafil Jahiliya, ça n'existe pas ça. Même à l'époque pré-islamique, ça n'existe pas. Un fils qui insulte son père ou qui insulte sa mère, insulter, maudire. Donc ils étaient choqués. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il fait acheter? Comment un homme peut-il insulter ses parents? Vous voyez? Et cela nous montre encore une fois la pureté des cœurs des compagnons. Radiallahu anhum. Et malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, cela arrive, et cela peut arriver même parmi les familles musulmanes. Des enfants et un musulman qui insultent leurs parents musulmans. Subhanallah. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, il a expliqué pourquoi il a dit ça. Il a dit tout simplement, il a voulu faire comprendre que le fait d'être la cause de l'insulte envers ses parents, eh bien c'est comme si tu les avais insultés toi-même. C'est comme si tu les avais insultés toi-même. Pour faire simple, la personne insulte les parents de quelqu'un. Ça arrive souvent à Constantin. Une dispute entre deux personnes, et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle insulte les parents de la personne. Qu'est-ce qu'elle répond à la personne? Elle répond par la même. Elle répond par la même chose. Elle insulte ses parents à lui. Vous voyez? Donc même s'il n'a pas insulté ses propres parents directement, il l'a fait indirectement. Il l'a fait indirectement, il a provoqué cela. C'est lui qui l'a provoqué. Et ça va, il dit, c'est pas seulement le fait d'insulter, il se peut que tu aies fait du mal à quelqu'un aussi. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu l'as volé, tu l'as trahi, tu as fait du mal. Et la personne, mais qu'est-ce qu'elle fait pour se venger? Elle insulte tes parents. C'est pareil. Tu as été la cause de ça. Tu as été la cause. Donc c'est comme si tu les avais insultés toi-même. Donc c'est ça le sens du hadith. Le sens du hadith. Que dire alors de ceux qui les insultent directement? Que dire alors de ceux qui les insultent vraiment, pour de vrai? Directement. Le fils, il insulte son père, il insulte sa mère. Ça, chez les kofars, ça y est, c'est normal. Chez les kofars, c'est normal. Ça, c'est normal. Hein?
Les kofars, ils sont génocides. Je ne sais pas.
Il ne faut pas généraliser en gros.
Je crois
plus. Mais là,
ils respectent
plus. Moi, de ce que je généralise pas, je ne dis pas ils sont tous comme ça. Je ne dis pas ils sont tous comme ça. Mais niveau respect enfant-parent, c'est catastrophique aussi. C'est catastrophique aussi. Tu vois? C'est vrai ou pas? Des fois, ça. Ça frappe, carrément, ça frappe. Le petit, il frappe son père. Il frappe sa mère. Allahu alam, ça, c'est rare de voir chez les musulmans, quand même. C'est très rare.
Ça commence.
Il commande.
Il le commande. Le petit, il commande son père, il commande sa mère. Il le frappe. Et bien sûr, après, il appelle Pascal. Allez, Pascal. Allez. Il a porté la retraite, lui, je crois. Qui revient, c'est catastrophique.
Parce qu'il y a
le grand-père. Hein? Le
grand-père
là, oui. Tu vois des choses que tu ne vois pas quand même chez les musulmans. Chez les musulmans, tu ne vois pas ce genre de choses. Tu vois de l'irrespect, tu vois de l'irrespect. Astaghfirullah, adhamullah. tu vois, de les respecter. Mais de là jusqu'à l'insulte, jusqu'au coup, non. Ça, en tout cas.
Salam Khadjoul.
Le petit, il se fait tuer. Ah,
salam Khadjoul.
Voilà, c'est là. قال يشتم الرجل الرجل منصوب على المفعولية المفعول به يشتم الرجل بفتح اللام فيشتم ذلك المسموم أبا ساب وأمة نعم ويحتمل أن يكون مرفوعا يشتم الرجل أي يشتم الرجل أحدا ويشتم الرجل يعني كلاهما صحيح يشتم الرجل ويشتم الرجل كلاهما صحيح فيشتم أباه وأمه طيب puis dit le cheikh Allah يشتم الرجل donc la personne il explique c'est le prophète qui explique il dit يشتم الرجل donc ici il y a deux analyses grammaticales qui sont possibles. Soit on va dire yashtimu ar-rajula, soit yashtimu ar-rajula. Donc si on dit yashtimu ar-rajula, c'est-à-dire une personne insulte un homme. Une personne insulte un homme. Et si on dit yashtimu ar-rajula, eh bien c'est l'homme qui insulte quelqu'un, entre parenthèses quelqu'un. D'accord ? Ahadan. Donc, yani que ce soit l'une ou l'autre possibilité, le sens est le même. C'est-à-dire que lorsque tu insultes quelqu'un, eh bien, tu vas provoquer le fait qu'il insulte tes propres parents. Tes propres parents. لا شك أن شتم الرجل لوالديه بأي نوع من أنواع الكلام القبيح كبيرة من كبائر الذنوب. لا شك. ولما كان من النادر أن يواجه الرجل والديه بشتم بين النبي صلى الله عليه وسلم نوعا آخر يقع فيه كثير من الناس وهو شتم الناس شتم الناس أي شتم آبائهم وأمهاتهم فيردون على الشتم بمثله فمن شتم أبا الرجل أو أمه باللعن أو بالكلام القبيح ورد عليه الآخر بمثل ما قال فالبادئ أي المبتدئ شتم والديه شتم والديه وإن كان الشتم حصل من غيره ولكنه هو السبب لذا وجب على المسلم أن يراقب لسانه وجب على المسلم أن يراقب لسانه وأن يحفظ من السب والشتم للآخرين فيقابلوا بمثل ما قال فيتعدى إلى الوالدين وإلى الأسرة وإلى القبيلة ومشاكل ذلك مما هو واقع كثيرا في المجتمعات إلا من رحم الله Donc il n'y a pas de doute que le fait d'insulter ses parents, eh bien, à travers une parole kabir, en leur adressant des mauvaises paroles, d'ailleurs, c'est pas forcément un gros mot là, mais une mauvaise parole, juste une mauvaise parole qui est mauvaise, qui n'est pas bonne, fait partie des péchés majeurs, des kabir. Non. Étant donné donc qu'il est rare quand même, qu'il est rare de voir un musulman insulter directement ses parents, alhamdulillah, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quand même exposé et dit qu'il y avait une autre chose qui se produisait, cette fois, beaucoup, en grande quantité. Certes, il est rare d'insulter son père, le musulman, il insulte ou il insulte sa mère ou son père. Par contre, cela arrive souvent. Autre chose, c'est quoi ? Le fait d'insulter les gens. Le fait que la personne insulte les autres. Ça arrive souvent. ça arrive plus souvent en tout cas, que la personne insulte yani, un frère, insulte quelqu'un dans la rue ou quelqu'un avec qui il a eu un différend ou autre. Allah musta'an. Non. Qu'il l'insulte, yani ses parents, c'est-à-dire qu'il va l'insulter en insultant ses parents, ou en insultant ses ancêtres, ou en insultant yani, les gens qui sont décédés dans sa famille, ou sa tribu, ou son pays, ou son village. Vous voyez ? Et la personne, qu'est-ce qu'elle va faire ? Donc elle va répondre à l'insulte par la même chose. Donc, celui qui insulte, maudit ou adresse des mauvaises paroles à l'encontre du père ou de la mère de quelqu'un et que la personne lui répond de la même façon, eh bien celui qui a commencé, c'est comme s'il avait insulté ses propres parents. Celui qui a commencé, c'est comme s'il avait insulté ses parents. Et donc il est concerné par le hadith. Parce qu'il a été la cause. Il est donc obligatoire que le musulman surveille sa langue. S'abstient, il la surveille, il contrôle sa langue. Il contrôle sa langue. Même s'il a eu un différend avec quelqu'un, il n'insulte ni lui, ni ses parents, ni son chat, ni son... Il n'insulte pas. Que des bonnes paroles. Il prononce que des bonnes paroles. Soit il dit du bien, soit il se tait. Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il se taise. Donc il doit préserver sa langue des insultes, des injures envers les autres. Que dire alors des choses qui vont engendrer les insultes envers ses parents, subhanallah. Envers ses parents. C'est lui qui a été la cause de ça. Ou envers sa famille. Hein? Des fois ça va insulter les parents, mais ça va insulter aussi les enfants peut-être. Les frères, les sœurs, les grands-pères, les morts. Regardez jusqu'où ça va, les morts. Al-Qabila, la tribu. C'est quoi ça, subhanallah? Et autre que cela, parmi les choses qu'on voit, on témoigne dans les sociétés aujourd'hui, contemporaines, sauf ceux que Allah tabaraka wa ta'ala a bien voulu épargner et préserver. Ma yukhadhu min al-hadith. Awalan. تحريم شتم الوالدين وأن ذلك من العقوق فمن العقوق سبهما مباشرة هذا واضح أو تعريضهما للسب هذا كذلك من العقوق تعريضهما للسب وللإهانة من قبل الآخرين لهما فتعريض الأبوين للسب من أكبر الكبائر. Premièrement, les frères, premier enseignement que l'on tire de ce hadith, l'interdiction, bien sûr, d'insulter ses parents. Bon, cela est clair. Insulter, avoir des mauvaises paroles, injurier ses parents, rentre dans ce qu'on appelle al-uquq, la malfaisance envers les parents. Vous voyez ? Que ce soit le fait de les insulter directement, ça c'est clair, il n'y a pas de doute. Mais également le fait de les exposer aux insultes des autres. Ça rentre également dans l'uquq. Tu les as exposés à ça, eh bien sache que tu as été malfaisant envers tes parents. Tu as été malfaisant envers tes parents, tu as fait preuve de désobéissance et de malfaisance. Pourquoi ? Parce que tu les as exposés aux injures. Tu les as exposés à l'irrespect, aux insultes. Et donc cela fait partie des pires kabair. ثانيا بيان ان من تسبب في فعل كان كفاعل. من تسبب في فعل كان كفاعل. خيرا او شرا. Deuxièmement, nous avons tiré de ce hadith que le fait d'avoir été la cause d'une action eh bien c'est comme si tu l'avais faite. Que cet acte-là soit bon ou mauvais, tu as été la cause d'une bonne action, eh bien sache que tu as la récompense de celui qui va la faire. Allah. Ça c'est ma'arouf. Celui qui enseigne aux gens comment prier, comme prier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il aura une récompense pour chaque prière de tous les gens qu'il a enseigné la prière. Allah. Mais à l'inverse, celui qui a été la cause d'un mal, il prendra le péché aussi de tous ceux qui l'ont imité dans ce mal. Celui qui enseigne aux jeunes bid'a, il aura le péché de chaque bid'a, de chaque personne, à chaque fois que la personne va la faire. Jusqu'à ce qu'il se repente et qu'il expose aux gens. Et bien qu'il s'est trompé, qu'il se repent et qu'il demande pardon à Allah. Bien pareil, celui qui a été la cause que ses parents sont insultés, il prendra le péché. C'est comme s'il les avait insultés lui-même. C'est comme s'il les avait insultés lui-même. Bien sûr, bien sûr. ثالثا هذا الحديث أصل في سد الذرائع فما آل إلى فعل محرم يحرم فما آل أي فما جر إلى فعل محرم يحرم وإن لم يقصد الحرام ولكن يؤول فعله إلى الحرام فتحرم الوسيلة كحرمة الغاية كحرمة الغاية هنا. Troisièmement, ce hadith, une des preuves sur le fait de cette al-dara'a, d'empêcher tout moyen ou toute voie pouvant mener à un haram, tout moyen, toute cause, tout chemin, toute voie qui peut aboutir à un haram, c'est haram. D'accord ? Même si la personne à la base n'a pas l'intention de faire du haram. La personne à la base n'a pas l'intention d'insulter ses parents. Mais elle a été la cause de cela. Donc, le fait d'être la cause de cette chose-là est aussi haram. C'est interdit aussi. D'ailleurs, donc, elle voici là, la cause qui mène et qui aboutit à ce haram, il est aussi interdit. Il est aussi interdit. Vous voyez ? Par exemple, le fait de regarder une femme qui ne fait pas partie de tes maharim. Le fait de regarder une femme, c'est une cause, c'est un chemin, c'est une voie qui va te mener vers quelque chose de haram. Le fait de s'isoler avec une femme, le fait de toucher une femme, serrer la main à une femme, faire la bise à une femme. Tout ça, c'est des wasail, des voies qui te mènent vers le zina. Vers le zina. Donc Allah, tabarak wa ta'ala, il a fermé cette porte. Une bab, c'est des daraya. Yani, fermer toutes les voies qui peuvent mener à un haram. رابعا مراجعة الطالب لشيخه فيما يشكل عليه مراجعة الطالب لشيخه فيما يشكل عليه لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا كيف يشتم سبحان الله كيف يشتم أو كما قال عمر كما قال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت. أي فرجع هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمراجعة الطالب لشيخه فيما يشكل عليه كيف يشتم. أي فلا يستحي الطالب فيما يشكل عليه من المسائل الشرعية لا يفهم، وقد يفهم لكن فهما غير صحيح. فقال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. Et quatrièmement, le fait que le talib, l'étudiant ou l'élève qui écoute son professeur, son cheikh, et son cheikh lui dit une chose qu'il n'a pas bien compris, ou alors qu'il lui pose un souci, yani, il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre, voyez, et bien il se doit de poser la question. Il se doit de revoir cette mas'ala avec son cheikh. Soit, s'il peut, pendant le dars, si ça ne dérange pas le cours du dars, ou soit il attend la fin du dars, il va le voir, il lui pose la question, mais il ne reste pas comme ça sans rien faire. Car sinon, il risque de partir avec une mauvaise compréhension, avec une choubha, une ambiguïté. Il fait comme ils ont fait les sahaba. Comme ils ont fait les sahaba. Avec tout le respect qu'ils avaient les sahaba pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'hésitaient pas. Ils n'hésitaient pas à revenir sur des sujets, alhamdulillah. Comme ils ont fait là, kayfa yashtim ? Comment ça, subhanallah, rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ? Comment un enfant peut-il insulter son père ? Sérieux ? Et là, le prophète leur a expliqué, leur a exposé l'affaire.
Akhi, celui qui réplique, il a le même jugement que celui qui fait la cause ?
Non, celui qui réplique, il n'y a pas de doute qu'il a commis un péché aussi.
Mais pas comme
il a commis un péché.
Oui, mais pas comme celui qui a fait la cause, non ?
Lui aussi, il va exposer ses parents. Enfin, il va exposer. Il va exposer ses parents à une deuxième insulte encore.
Ouais.
Après, ça n'arrête plus. Non, les deux, ils sont fautifs. Les deux, ils sont fautifs. Les deux, ils sont fautifs. D'ailleurs. Ouais. C'est bon ?
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ننتقل إلى الحديث التالي، وهو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم
أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده.
Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, a dit provoquer l'insulte de ses parents par autrui fait partie auprès d'Allah Azza wa Jal des grands péchés.
حديث حسن أخرجه ابن وهب في الجامع. الحديث إلي حسن. حسن يخوى سن degré d'authenticité qui est en dessous du sahih, mais qui fait que le hadith il est quand même recevable et fait preuve d'arguments et de preuves. رجال الإسناد مخلد هو ابن يزيد أبو يحيى الحراني ثقة يهم. Donc on a Mohammed ibn Salam qui l'a rapporté de Makhlad, qui est ibn Yazid Abu Yahya al-Harrani, qui fait partie des rapporteurs de hadith fiables. On a également ibn Jurayj, qui est Abdul Malik, ibn Abdul Aziz, qui fait partie des fuqaha, des gens du Hijaz. Na'am. Qui l'a rapporté de Mohammed ابن الحارث ابن سفيان المخزومي المكي ابن حبان رحمه الله تعالى a dit qu'il fait partie des ثقات des rapporteurs fiables qui l'a pris de qui a dit donc que عروة ابن عياض وهو ابن عمرو ابن عبد القاري وثقه أبو زرعة. Donc Urwa ibn Iyad ibn Amr a été rendu également fiable par Abu Zur'a rahimahullah ta'ala. طيب فبإذن الله عز وجل نكتفي بهذا القدر وسنواصل الأسبوع القادم أو القادمة. والعلم عند الله تبارك وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم القيامة.